Alors, l'argent, la monnaie, c'est quoi l'argent? Alors, y a des définitions, et puis il y a une compréhension à avoir de ce que c'est. L'argent, à la base, ce sont... Ah, je ne vais pas faire tout l'historique, on n'a juste pas le temps. Aujourd'hui, l'argent, il est créé par ce qu'on appelle une base monétaire, ce qu'on appelle la monnaie banque centrale. Les banques centrales à qui la puissance publique a délégué, dans un premier temps, mais on va voir que c'est qu'une toute petite partie de l'histoire, le pouvoir de créer de l'argent. D'accord? Alors cet argent, il prend différentes formes. Les pièces, les monnaies, très marginales à l'échelle de tout le système, et puis ce qu'on appelle la monnaie scripturale, comptabilisée par la banque centrale à son passif. C'est-à-dire que quand vous prenez un bilan de banque centrale, il y a des actifs et puis il y a un passif. Le passif, c'est des dettes. Et la dette d'une banque centrale, ça va être une dette vis-à-vis des banques commerciales. Et ça va, c'est la base monétaire. D'accord? C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. D'accord? Ce qui est très important, c'est... On va faire 2 secondes d'étymologie. L'étymologie du mot fiduciaire, ça vient du latin fides, qui veut dire la confiance. Ah, tiens, il y a une notion de confiance. Ok. Deuxième temps, pour le moment, je suis dans le descriptif, puis après ça, on va voir comment tout ça se relie. Deuxième temps, il y a ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Scripturale, écrire. Hein. J'écris quelque chose. Et la monnaie scripturale, alors... Les économistes adorent diviser ça en différentes masses, M1, M2, M3 pour les spécialistes. Au fait, la monnaie fiduciaire dont je viens de parler, c'est M0. Vous savez quoi? On s'en moque. Enfin, on s'en moque. On peut plonger dans ce détail si on veut, mais ce qui compte, c'est de comprendre la logique. On a la monnaie banque centrale, puis ensuite, on a la monnaie créée par les banques commerciales. Et j'ai bien dit créée. Ce qui est très important, la chose la plus importante à avoir en tête, c'est que nous vivons dans des systèmes monétaires où les prêts font les dépôts. Cette phrase, elle est universellement vraie, les prêts font les dépôts. C'est-à-dire que quand vous et moi, on va emprunter 100 € à une banque pour acheter notre appartement ou acheter notre voiture, il y a 100 € qui sont créés par cette banque. À partir du moment où elle se dit, tiens, Madame Machin, je vous accorde ce crédit de 100 €, il y a 100 € qui sont crédités sur votre compte, ça devient une dette de la banque et ça devient un actif pour Madame Machin qui vient d'emprunter ces 100 €. Et ces 100 € elle peut en faire ce qu'elle veut, acheter sa voiture ou elle peut les placer dans une autre banque si elle le veut. Et c'est comme ça que l'argent est créé. C'est quelque chose de très très important à comprendre. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que, je vous rassure, je ne vais pas faire beaucoup de comptabilité, mais c'est-à-dire que là, une fraction du bilan d'une banque commerciale devient en fait la monnaie. C'est-à-dire que, et aujourd'hui dans nos sociétés, 95 à 97%, j'ai bien dit, allez, on va dire 95, le chiffre est plus simple à retenir, c'est un peu plus que 95. 95% de la monnaie qui circule est en fait une dette des banques commerciales. BNP Paribas, je parle France, hein, mais c'est pareil dans tous les pays. Crédit Mutuel, CIC, Crédit Agricole. Bon, vous m'avez compris. Donc plus de 95% de la monnaie est en fait une dette de ces banques privées vis-à-vis de nous, et puis on peut se l'échanger. Et la raison pour laquelle tout ça fonctionne, c'est qu'il y a une confiance. Il y a une confiance qui tient en fait que derrière des banques privées, il y a une banque centrale, et derrière des banques centrales, il y a la puissance publique. Je pense qu'on n'aura pas le temps, mais c'est peut-être l'une des questions essentielles au niveau de l'euro, c'est au fait qui est-ce qui est derrière la banque centrale. Mais si on commence à rentrer dans ce sujet, on va trop digresser. On l'abordera éventuellement dans les questions. C'est quoi une crise bancaire? Je le prends par ce biais-là, c'est vraiment important. Moi, ma description préférée d'une crise bancaire, c'est Mary Poppins. Je ne sais sais pas si vous avez en tête cette scène où le petit garçon va chercher ses 2 pence, ses 2 sous à la banque, son père est banquier, et puis on veut pas lui donner ses 2 sous, et il dit on veut pas me donner mes 2 sous, et il crée une panique bancaire où tous les clients veulent retirer leur argent, et la banque s'effondre. Une crise bancaire, bon, ça c'est dans Mary Poppins, mais Northern Rock qui crée une panique en septembre 2007 dans le système financier britannique, c'est rigoureusement la même chose. C'est l'instant où les clients d'une banque privée, le petit garçon dans Mary Poppins ou les clients de Northern Rock en septembre 2007, mais des exemples, il y en a d'autres, se disent « Ah tiens, la dette de cet établissement privé vis-à-vis de moi, je suis plus bien sûr, j'ai plus vraiment confiance » que cet établissement va être là. Donc, je veux convertir ma dette en face d'une banque privée en une dette en face, vis-à-vis la puissance publique. Donc, je veux transformer ma monnaie scripturale en monnaie fiduciaire. Voilà. Puisque je ne suis pas sûr que la banque X dans laquelle j'ai les sous sera encore là, j'aimerais mieux avoir en face de moi l'État, pour faire ça. D'accord ? Donc, en fait, on voit bien que même si on fait ces distinctions fiduciaires, confiance, scripturale, écriture, tatata, mais tout ça est fondé sur la confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, à la fois pour comprendre ce qu'est la stabilité d'un système financier, mais également le processus de création monétaire. Parce qu'à partir du moment où la création monétaire vient de l'activité de prêt d'argent, on voit bien que mécaniquement, ça va suivre le développement de l'activité économique. Donc c'est un système qui permet de faire ça. Historiquement, encore une fois, on n'a absolument pas le temps de rentrer dans toute l'histoire de la monnaie, mais historiquement parlant, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, on a fonctionné dans des systèmes monétaires, déjà de monnaie métallique, et ensuite de systèmes dualistes, où il y avait par exemple la différence entre une unité de compte et puis le moyen de paiement. On vous disait, ça coûte 10 livres tournois et vous allez payer, et dans 10 livres tournois, il y a tant d'écus, et puis il pouvait y avoir à l'époque, ils appelaient ça une mutation, l'équivalent d'une dévaluation, il faut plus ou moins d'écus pour payer le livre tournois, etc., etc. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce système, c'est-à-dire que l'unité de compte et le moyen de paiement sont alignés. C'est quelque chose qui est important et qui n'est pas donné. Un exemple qui est assez intéressant, que je trouve assez parlant pour bien comprendre cette notion de monnaie, expression d'une souveraineté monétaire, donc une souveraineté politique, parce qu'on viendra toujours aux politiques, c'est le fait que si vous et moi, on donne de la valeur au billet de 10 euros qu'on a dans notre poche, au bout du compte, c'est parce qu'on peut payer nos impôts avec. Si l'État nous dit, au fait, les euros que vous avez, vous ne pouvez plus payer vos impôts avec, je vous garantis que les tas de papiers de billets, ils ne vont pas valoir grand-chose. Le premier empereur de Chine, celui qui a unifié la Chine, Qin Shi Huangdi, 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est lui qui unifie la Chine, etc., etc., il a créé quelque chose qui était extraordinaire. C'est l'un des premiers exemples massifs de ce principe de la monnaie, expression d'une souveraineté. Il a créé des pièces ronde, avec un carré, un trou carré au milieu. Quand on connaît la symbolique chinoise, le carré c'est la terre, le rond c'est le ciel, et toute la symbolique chinoise c'est l'être humain entre terre et ciel, la terre sous le ciel, etc. etc. Qin Shi Huangdi, il a le génie de créer ces pièces rondes avec un carré au milieu qui sont l'expression du fils du ciel, de la souveraineté, je vous représente, etc. et qui sont complètement détaché du fait que ça soit lui ou ses successeurs. Et ces pièces, alors bien sûr, leur apparence a pu un peu évoluer, mais le principe même, on les retrouve encore, on les retrouvait, j'ai souvenir de voyages là-bas, il n'y a pas si longtemps que ça, on trouve encore des pièces comme ça aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment l'État va dire ce morceau de cuivre qui fondamentalement n'a pas de valeur intrinsèque, grand débat de l'économie et de la finance, c'est quoi la valeur des choses ? Voilà. Mais en tout cas, c'est une chose certaine, c'est que cette pièce, elle n'a pas de valeur. Elle va acquérir une valeur parce qu'elle est l'expression d'une souveraineté. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à avoir bien en tête. Après ça, de cette monnaie, il faut bien voir comment on passe de la monnaie au capital. Fondamentalement, la transformation de la monnaie en capital, elle va se faire par étapes. Dans un premier temps, la monnaie va être transformée en instrument financier. Et on voit bien qu'un instrument financier, ce n'est pas la même chose que de la monnaie. C'est une action, c'est une obligation. Pour faire simple, c'est les deux grands instruments financiers. Mais bien sûr, il y en aura d'autres. On l'évoquera tout à l'heure parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ça si on veut comprendre le système financier aujourd'hui, tout ce qui s'appelle produits dérivés. Et puis, il y a une myriade de produits financiers. Mais j'ai envie de dire, ils sont déclinés de façon extrêmement diverse d'un point de vue juridique, parce que leur emballage juridique est différent, mais in fine, si on a dit action-obligation, on a dit l'essentiel de ce qui va compter pour allouer, parce que c'est de ça qu'on parle, allouer la monnaie à l'économie là où on a besoin, puisqu'une action, c'est une, pardonnez-moi de dire une évidence, c'est un type de propriété. Je suis propriétaire d'une fraction de l'entité X, de l'entreprise X. Et puis une obligation, c'est un type de créance. D'accord ? Donc une fois qu'on a dit soit je suis propriétaire de l'entité, soit je lui ai prêté de l'argent, on a quand même dit l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, et dans une certaine mesure c'est vrai, la finance c'est très compliqué. Oui mais non. Et derrière le nom, je pense que si on revient toujours à la base de « est-ce que je comprends la différence entre être propriétaire et prêter de l'argent ?» Dans un cas, ça m'appartient, et puis advienne que pourra, dans l'autre cas, j'ai prêté de l'argent, on me remboursera avec un taux. Si on comprend la différence entre acheter, vendre, prêter et emprunter, on a quand même compris l'essentiel de la finance. Je fais exprès de le ramener à des choses somme toute très simples. Et les moments où on se dit « mais je ne comprends plus comment est-ce que ça va fonctionner dans cette chaîne somme toute très simple », c'est probablement qu'il y a un petit peu d'enfumage. Donc il faudra toujours revenir à ces étapes. Donc on a une monnaie qui va être transformée en instrument financier, qui lui-même va être transformé, ou non, en capital productif. Et j'ai bien dit qu'il va être transformé ou non. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure cette monnaie transformée en instrument financier va être effectivement transformée en capital productif ou pas. Dans les petites interviews, tout est dit dans les petites interviews qui étaient dites là, que Frédéric nous a montré au début. Quelqu'un dit, ce qu'il faudrait, c'est que l'argent aille aux entreprises, aux projets réels, aux gens réels. Dans mon vocabulaire, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il y a une partie de l'argent transformé en instrument financier qui va aller au capital productif, à l'économie, à la société, aux entreprises, aux associations, aux gens qui font quelque chose avec cet argent. Et puis il y en a une autre partie, on y reviendra, qui va... Allez, je garde un tout petit peu le suspense, on va en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est quelque chose qui est important à voir. Oui.
On fait circuit de
Merci. Benjamin Gros. Petite question qui est un tout petit peu après la question de la création monétaire et qui me semble faire le lien à ce que vous êtes en train d'exprimer sur la transformation en instrument financier puis capital productif ou et qui fait écho à des bruissements que j'ai pu un peu entendre sur qui crée à un moment la monnaie aussi, et puis des débats que j'ai pu avoir dans des organisations de finances solidaires par ailleurs. Oui, il y a une création monétaire au moment où la banque prête, et donc mais finalement, il y a un crédit, il y a une dette, donc on peut se dire qu'il y a bien création de quelque chose qui apparaît dans des comptes et tout ce qu'on veut. Il y a un moment, par contre, ça va être remboursé, et ça va être remboursé, en tout cas pour ce qui est de la vie courante et de ce qu'on va appeler peut-être l'économie réelle ou quelque chose comme ça, par une production qui est tangible et qui est créatrice elle-même voilà, d'une valeur. Et donc, quelque part, est-ce que, in fine, la vraie création monétaire, c'est pas tout simplement le porteur de projet qui a créé de la valeur, qui est le créateur de j'allais dire d'une monnaie réelle, et pas d'une monnaie qui resterait un peu virtuelle et un simple jeu d'écriture.
Je pense que vous avez tout à fait la bonne intuition. Je mettrais juste un petit bémol, mais qui est purement sémantique, absolument pas de sens, sur le fait que ce n'est pas la vraie création monétaire, c'est la vraie création de valeur économique. La valeur économique, l'argent en tant que tel, c'est une énergie, c'est un moyen d'échange. Alors il y a les fonctions traditionnelles, argent, unité de compte, réserve de valeur, intermédiaire des échanges, bon, qui sont les trois échelles, dans tous les bouquins d'économie, on dit ça, et c'est vrai, d'accord. Donc, en tant que tel, l'argent, il ne va pas avoir créé de valeur. Donc, ce que vous dites, c'est que la valeur, elle est créée grâce à cette énergie économique et sociale qu'est l'argent. Et en fait, mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui est vraiment fondamental, quoi. C'est vous et moi, si on n'a pas d'énergie le matin quand on se réveille, on ne va rien faire de notre journée. Voilà, c'est le jour où on est malade, c'est qu'on n'a pas d'énergie. Quand on n'a pas d'énergie, on ne fait rien. Voilà. Et quand on fait quelque chose, bah, voilà, il se passe des choses. Bah, c'est exactement la même chose. Mais donc, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie économique, c'est une énergie sociale, totalement fondamentale. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est clairement pas le but. C'est un moyen. C'est un moyen. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ce que vous dites, en fait, y a des chiffres qui sont assez intéressants. Vous voyez, le bilan, un bilan de banque centrale, c'est un gros paquet de masse monétaire. Hein. Le bilan de la réserve fédérale américaine, entre 2000 et 2015, il augmente, je reprends le chiffre que j'ai noté là, de 500% en 15 ans. 500% d'augmentation, c'est pas mal. Le bilan de la banque centrale européenne, sur la même période, il augmente de 300%. Sur la même période, l'investissement productif, je dis bien l'investissement productif aux États-Unis, il augmente de 68%. Aux États-Unis et 43% en Europe. Et le PIB, qui est une mesure extrêmement imparfaite de la production économique, mais bon, allez, on va rester dans cette imperfection tellement utilisée, il augmente de 42% aux États-Unis et 24% en Europe. Donc, États-Unis, plus 500% sur l'augmentation de la monnaie banque centrale, 68% sur l'investissement, 42% sur la production. Et bon, Europe, 300, 43, 24. Et c'est exactement... Je relis ça à votre question. Si on vous dit, mais attends, je ne comprends pas. Tout cet argent, il va où? Il a fait quoi? Comment est-ce qu'il y a une telle augmentation de la masse monétaire et que par deux mesures, certes très imparfaites, mais quand même, qui normalement devraient être à peu près corrélées, qui sont l'investissement productif et puis la production économique, on a des chiffres beaucoup plus bas. Sur la période 2000-2012, si j'ai bonne mémoire, parce que tout à l'heure je disais, mais attention, la monnaie c'est à 95% les banques commerciales qui le créent. Sur l'Union européenne, entre 2000 et 2012, le bilan des banques privées, cette fois-ci, il augmente d'environ 80%. Et sur la même période, le PIB de l'Europe, il augmente de 30%. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la taille des bilans bancaires, donc fondamentalement de la monnaie, augmente, dans cet exemple, par exemple, deux fois et demi plus vite que la production économique. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors que la vraie richesse, c'est ce que vous mettez en exergue, monsieur, c'est la production économique. Et en fait, le qu'est-ce qui se passe, c'est très simple. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de théorie économique, je vous rassure, mais il y a une équation... Frédéric me contredit s'il a une vue différente, qui est relativement bien admise, avec beaucoup de nuances, par les économistes. Bon, ça s'appelle Cobb-Douglas, qui en gros dit, pour faire de la production, on met du capital du travail dans des proportions juste de capital du travail, puis on a la production économique. Et c'est assez intéressant, parce que Dieu sait si les économistes ont leur lot de polémiques et de désaccords, mais en gros, le fait de dire qu'il faut mettre du capital du travail pour produire, il y a un assez bon consensus. Mais... si on essaie de rejoindre cette équation et puis les chiffres que je viens de donner, et on se dit, bah, tiens, l'argent, il devrait être transformé en capital, logiquement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça ne s'est pas transformé en production. Alors, soit la productivité du capital s'est effondrée, mais alors ça, si on a notre belle équation, ça voudrait que la productivité du travail a été multipliée par, de façon considérable, Or, la réalité, c'est non. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas évolué ici ou là, enfin, suivant pas nos proportions. Soit il y a une fuite en dehors du système, soit l'argent, il ne va pas, parce que le capital de notre belle équation de production, c'est par construction, évidemment, c'est une évidence du capital productif. Donc, vous voyez, derrière votre question, il y a toutes ces questions-là. Donc, on va pouvoir se poser la question, d'ailleurs, de capital productif.
Christine Guinard, juste une interrogation par rapport à vos explications. C'est pour avoir les résultats que vous mentionnez là dans les chiffres que vous citez sur l'économie réelle par rapport au PIB ou par rapport aux autres chiffres. Est-ce qu'il était nécessaire finalement d'injecter autant dans les proportions? Parce que finalement vous dites voilà, ça a été multiplié par 500 aux États-Unis, 300 en Europe. Est-ce que finalement on était obligé d'en passer par là quand bien même il se passe des choses et on se demande ce qui se passe pour avoir les résultats in fine? Ou est-ce qu'on aurait pu avoir des résultats équivalents sans en passer par cette création de monnaie par les banques?
De mon point de vue, si on était dans un système où... Je prends une comparaison qui a des limites, mais qui fait passer l'idée. On a une grosse canalisation d'eau, avec beaucoup d'eau qui arrive d'un côté, puis il y a des fuites dans tous les coins. Et en bout de chaîne, le bout de chaîne étant l'économie productive, il y a un peu d'eau qui arrive. Mais si on avait une canalisation qui n'était pas percée de tous les coins, on aurait pu stimuler l'économie, certes en créant de la monnaie, mais dans des proportions bien moindres. Donc, ça serait un petit peu ma réponse succincte.
Une autre question, excusez-moi. Un emprunt pour le remboursement de la dette, vous le logez où du coup?
Un emprunt pour le remboursement de la dette. Donc vous avez emprunté de l'argent à une banque?
L'État emprunte et
L'État ou...
L'État. Au niveau de l'État.
Quand vous dites vous le logez où?
Socialisation de dette privée.
Alors, il faut distinguer si l'État a gardé sa souveraineté monétaire ou pas. Parce que dans la zone euro, les États ont abandonné cette souveraineté monétaire. Bon. Si un État... il y a, même quand il y a une souveraineté monétaire, au moins nominalement, vous prenez la Grande-Bretagne ou les États-Unis, le Trésor émet une dette. D'accord, c'est une dette du Trésor américain. Voilà. Et puis, donc ça, c'est pas stricto sensu, ce n'est pas de la monnaie. Après ça, l'une des caractéristiques des marchés financiers, et c'est un point sur lequel, mais c'est très bien, je suis pas obligé d'aborder dans l'ordre, le marché financier, c'est un endroit où l'instrument financier va se convertir en monnaie. Enfin, c'est un endroit de transformation de la monnaie en instrument financier et vice-versa. C'est-à-dire que quand vous réalisez, quand vous pensez... C'est-à-dire que la dette de l'État, stricto sensu, c'est pas de la monnaie. La dette de l'État. Par contre, à l'instant, si vous êtes trader, teneur de marché, comme on dit dans le jargon, market maker, et que votre métier, c'est de faire un prix sur cette dette d'État, quand vous faites un prix, vous dites, moi, la dette de l'État américain, je paye tant pour ça, et tu me vends ta dette, je te donne de l'argent, qu'est-ce que vous avez fait? Concrètement, vous avez transformé un instrument financier en monnaie. D'accord. Et c'est tout le débat... Sandra, on a parlé très rapidement tout à l'heure de la liquidité. En fait, la liquidité du marché financier, c'est avec des spécialistes, des traders fondamentalement, qui font ce travail, eh bien, ils transforment un instrument financier en monnaie. Et, enfin, dans un sens et dans l'autre. Et de la monnaie en instrument financier. Donc, ils ont un pouvoir qui est quasi monétaire. Et c'est là que le marché financier, qui stricto sensu, n'est pas la même chose qu'un marché monétaire, devient un marché quasiment monétaire à partir du moment où on peut échanger très, très rapidement. Je passe ça à répondre à votre question.
Simplement, par rapport à vos explications, notamment sur le gonflement de la masse monétaire, par rapport à l'évolution de la valeur productive réelle, du système productif, vous n'évoquez pas l'effet spéculatif, c'est-à-dire justement, il y a quand même un jeu sur les places financières, où on est de plus en plus éloigné, finalement, de sur quoi est adossée la monnaie. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de crises à ce propos. Comment vous placez ça dans votre mécanique qui est extrêmement, finalement, bancaire, entre la monnaie, effectivement, scripturale, passif, inactif? Il y a d'autres comportements et il y a d'autres effets pour expliquer, à mon sens,
bien
ce
sûr,
type de
bien sûr. Et là, merci. Là, en fait, on arrive à la question de... Là, je disais, il faut qu'on regarde d'où vient l'argent, on a commencé à regarder, et puis où il va. Et dans le « d'où il vient », il y a fondamentalement, à l'instant où on va, où les acteurs financiers vont utiliser de l'argent, il y a deux sources, ou les acteurs économiques, il y a deux sources possibles. Il y a la source crédit bancaire, dont je viens de parler, et puis il y a la source investissement. Parfois, ça va se rejoindre, c'est là que bon, ça peut devenir complexe, mais ce qu'il faut bien voir... c'est que l'investissement, c'est de l'utilisation de l'argent, on va dire, préexistant, de l'argent qui a été créé, qui, in fine, appartient à des particuliers, hein, parce que les grandes institutions financières, en bout de chaîne, il y a toujours des particuliers derrière, une myriade de particuliers, et les quelques sous d'épargne qu'on peut tous avoir, ceux qui ont la chance de pouvoir en avoir, sur un compte, sur un fonds de placement, que sais-je, eh bien, c'est l'argent qui est préexistant. Et donc cet argent, il va falloir l'investir. Donc on voit bien qu'on a deux sources d'argent possibles, qui est, je vais à la banque, j'emprunte des sous, ça crée, mais à l'instant où j'emprunte, ça crée de l'argent, ou je vais recycler de l'argent existant. Et voilà, ça c'est une première chose. Et puis après ça, dans la destination, il y a la destination économie productive, et puis il y a une destination qui est une sphère financière qui fonctionne pour la sphère financière et uniquement pour la sphère financière. Donc c'est pour ça que cette matrice à deux entrées et deux sorties est importante à avoir en tête, parce qu'après ça, bien sûr, dans le monde réel, on va pouvoir croiser dans tous les sens. Et pour comprendre ce qui se passe. Alors, plongeons dans le monde de l'allocation du capital financier. Ça va aussi... voilà. Alors, j'ai bien dit capital financier, c'est-à-dire l'argent qui existe, qui préexiste, l'épargne qui a été accumulée par les uns, les autres. Comment est-ce que ce capital financier, il va être... alloué. Déjà, c'est important de bien faire la distinction. Il peut être alloué via un marché financier ou il peut être alloué en dehors du marché financier. On peut tous investir dans la SARL créée par notre cousin préféré sur une activité X. On a alloué du capital en dehors d'un marché financier sur un projet économique réel. De façon plus industrialisée que les 10 000 euros que je veux mettre dans la SARL de mon cousin, il y a tout ce qu'on appelle, dans le jargon, il y a beaucoup de jargon anglais, tout ce qu'on appelle le private equity, autrement dit, les fonds d'investissement professionnels, mais qui investissent dans des entreprises de façon non cotée. Donc fondamentalement, l'acte à la base, quand on y réfléchit, c'est la même chose que quand je mets de l'argent dans la SARL de mon cousin, sauf que c'est fait à échelle industrielle, alors soit en capital risque, soit en argent de départ d'une entreprise, soit en capital risque, soit en capital développement, soit en ce qu'on appelle LBO ou autre. Mais tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui ont comme fonction d'allouer du capital financier, on est clairement en capital financier, mais en dehors des marchés. C'est quelque chose qui est très important. Parce que on va certainement tout à l'heure aborder un certain nombre de dérives du système financier. Il faut déjà regarder à quoi il sert et en quoi il est utile. Ces gens-là, on ne peut pas leur reprocher de ne pas louer de l'argent à l'économie productive. Parce que quand ils mettent de l'argent, c'est pour aller dans une entreprise. Après ça, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est fait dans le respect d'un certain nombre de choses? Est-ce que leurs objectifs sont compatibles avec le développement économique? Et est-ce que les jeux de pouvoir et de cupidité ne font pas dériver la machine très souvent? Certainement. Mais ce n'est pas intrinsèque à l'acte d'investir dans une entreprise. Puis à côté de ça, il y a les marchés financiers. Un marché financier, j'enfonce une porte ouverte, c'est un endroit où on va s'échanger des instruments. D'accord ? C'est-à-dire que, à la base, c'est la même chose. Quand je souscris une augmentation de capital d'une entreprise cotée en bourse, je me donne de l'argent, j'investis de l'argent dans une entreprise qui va l'utiliser pour son développement. Sauf que l'action que j'ai eu en échange, je vais pouvoir la revendre sur le marché. À quoi ça sert un marché financier? C'est très important parce que c'est une conséquence qu'on va voir dans 2 minutes, qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre à la fois le bénéfice des marchés financiers et puis leurs dérives, qui ne sont pas minces. Un marché financier, ça sert à quoi? Ça sert à apporter de la transparence. Ça sert aussi à apporter la possibilité de ressortir de son investissement quand on veut, en théorie. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me dis, tiens, je pense que telle entreprise, pour des raisons X, Y, Z, a commencé par cette perspective, j'aimerais bien investir dedans, je vais acheter des actions de l'entreprise qui est cotée en bourse. Mais si j'ai besoin d'argent dans un an, je pourrais toujours revendre mes actions, et puis la vie continuera, je verrai ce que ça vaudra à l'époque, et puis ça continuera. Donc le but d'un marché financier, c'est ça, c'est apporter une transparence, apporter une liquidité, le mot est lâché, et puis aussi être aussi une jauge de la valeur des choses. C'est-à-dire que, alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. J'ouvre un écran, on me dit l'action X vaut 10, et je sais qu'il y a 1000 actions dans la nature, et bien je sais que l'action vaut 10 fois 1000 égale 10 000. Voilà. Donc ça y est, je sais ce que vaut, en tout cas le prix de cette entreprise sur le marché. Donc c'est aussi une jauge de la valeur des choses qui a beaucoup de conséquences. Quelque chose de très 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 important à comprendre, c'est qu'un marché financier va créer sa propre demande. Et c'est là qu'on commence à changer de nature par rapport à toutes les autres activités financières. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez et qui permet de comprendre beaucoup. Il y a 2 ou 3 clés pour comprendre le système financier, et notamment celui qu'un marché crée sa propre demande. Je m'explique. L'évolution d'un cours, elle est liée, en théorie, et après ça on va en pratique, en théorie, au fait que je pense que les perspectives économiques, on va raisonner sur une action, mais ça vaudra aussi pour une obligation, les perspectives économiques d'une entreprise sont telles que ses bénéfices vont augmenter et donc que sa valeur va augmenter. Admettons que je sois prêt à avoir une rentabilité de, on va faire un calcul simple, de 10% sur une entreprise et qu'elle fait 10 de bénéfices tous les ans, et bien 10 fois 10, je considère cette entreprise, elle peut valoir 100. Et puis si le management de l'entreprise me dit « Ah oui, mais l'année prochaine, je vais plus faire 10, je vais faire 15 de bénéfices », si je pense que 10% c'est toujours bien, je fais 15 fois 10, et maintenant cette entreprise, elle vaut 150. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, alors, c'est pas une science exacte, mais enfin, il y a quand même des façons de calculer ça qui sont relativement rationnelles. L'erreur, il y a l'approximation, mais enfin, c'est une forme de rationalité. D'accord ? Ça, c'est la valeur dite intrinsèque. Mais la réalité, c'est que le marché financier ne va pas fonctionner comme ça. Il ne va pas fonctionner sur la valeur fondamentale, mais il va fonctionner sur l'anticipation de ce qu'il y aura demain. Il y a un petit texte absolument merveilleux à lire, qui est le chapitre 12 de la théorie générale de Keynes. Keynes, le grand économiste, l'un des grands économistes du XXe siècle. Et dans la théorie générale, dans son chapitre 12, Keynes compare les marchés financiers, et on vient à la question de madame sur la spéculation tout à l'heure, à un concours de beauté. Et il dit, la réalité d'un marché financier, donc de la spéculation, n'est pas de savoir qui est la personne la plus belle qui se présente au concours de beauté, mais qui les autres membres du jury vont penser, vont trouver la plus belle. Et le jeu ne consiste plus à savoir si telle ou telle personne, l'image a des limites, mais celle que prend Keynes, est intrinsèquement belle ou pas, c'est de savoir qui les autres vont penser être la plus belle. Ce qui veut dire que dans mon exemple d'une entreprise qui valait 100 et puis qui tout d'un coup peut valoir 150, si pour une raison quelconque, les investisseurs pensent que sur le chemin entre 100 et 150, elle va d'abord passer par 80, même si elle peut valoir 150 au bout de compte, elle va commencer par baisser à 80 avant probablement de remonter plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que quand je dis qu'un marché financier va créer sa propre demande, ça veut dire que sur la myriade de produits qui sont cotés sur les marchés financiers, dont beaucoup, je n'ai pas dit tous, c'est important, je pense, de mettre de la nuance, pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais dont beaucoup peuvent soulever la question de leur utilité réelle. On pourrait se dire, mais s'ils ne sont pas utiles, comment se fait-il qu'ils existent même? Parce que si c'est inutile, bah, tout le monde s'en moque. Si tout le monde s'en moque, ils vont pas, il n'y aura pas de demande. S'il n'y a pas de demande, il ne se passera rien. La réalité, c'est que je cote ce stylo sur un marché financier demain. D'accord, vous allez me dire, ça sert à quoi de coter son stylo? Réponse probablement à rien. Mais si quelqu'un se dit, ah oui, mais le cours va baisser, eh bien, le seul fait qu'il y ait une anticipation de variation de cours va faire qu'il y aura des achats-ventes. Et si je suis vendeur, bah, si je me dis que quelqu'un est prêt à le payer 3 euros alors que je pourrais le racheter à 2 euros demain, ça y est, le jeu de la spéculation a commencé. Ou dans le sens inverse, ça n'a pas d'importance. Donc, le marché financier va créer sa propre demande. Je vais vous donner un exemple très concret. Au début des années 2000, je travaillais dans une grande banque et j'étais co-responsable d'une activité de financement d'entreprises sur les marchés financiers pour cette banque. C'était la naissance des marchés de dérivés de crédit. Un dérivé de crédit, c'est une assurance cotée sur un marché contre le défaut d'un emprunteur. Donc ça fait le lien entre l'activité bancaire, je prête de l'argent, et puis le fait d'assurer contre le défaut. C'est-à-dire qu'on a la société Alcatel qui a emprunter de l'argent, qui a émis des obligations sur les marchés, donc qui s'est endetté. Et puis, il y a un dérivé de crédit qui va dire « Si Alcatel fait défaut, à ce moment-là, je te rembourserai ta dette. » Et ce dérivé de crédit, il s'est mis à devenir un instrument financier coté non pas en bourse stricto sensu, mais sur les marchés financiers. Et là, on pourrait se dire « Mais ça sert à quoi ?» L'argument des gens qui développaient ça à l'époque, c'était de dire « c'est formidable parce qu'on allait voir les banquiers, je m'inclus dans les gens qui faisaient ça à l'époque, puis on disait « regardez, c'est formidable, vous allez pouvoir prêter à Alcatel sans prendre le risque sur Alcatel. Si Alcatel fait défaut, vous ne perdrez pas d'argent grâce à mon super produit. » Et là, les banquiers traditionnels, ceux qui avaient passé leur vie à prêter de l'argent aux entreprises qu'ils pensaient être solvables, disaient « mais si je n'aime pas prêter de l'argent à Alcatel dans mon exemple, je vais juste ne pas lui prêter. Quel est l'intérêt de lui prêter pour m'assurer contre son défaut sachant que le prix que vous allez me faire payer, c'est le prix que j'aurais gagné en prêtant de l'argent à Alcatel. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas. » Donc fondamentalement, la réponse de ces banquiers, on va dire traditionnels, par rapport aux gens de marché qui leur disaient « regardez, c'est formidable, on va pouvoir fabriquer ce produit qui a ses avantages », c'est-à-dire « votre truc, ça sert à rien ». Malgré ça, au moment de la crise financière de 2007-2008, il y avait pour environ 60 000 milliards d'euros de dérivés de crédit cotés sur les produits et sur les marchés financiers. En arrondissant, 60 000 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB mondial. Tiens, il y avait pour l'équivalent du PIB mondial d'un produit financier dont on se demande à quoi il sert. D'accord. Pourquoi, comment? Mais qu'il y ait eu des gens qui aient fabriqué ces produits et qui aient eu envie de les offrir, on peut le comprendre. Après tout, s'ils trouvent des acheteurs, ils sont contents. Mais qui a acheté ça? Réponse, on reprend le chapitre 12 de la théorie générale de Keynes, les gens qui se sont dit « je me moque de savoir si c'est utile ou pas, du moment que je peux anticiper une variation de cours, bah, si je l'achète plus bas pour le revendre plus haut, ou si je le vends plus haut pour le racheter plus bas, j'ai de l'argent à faire. » Et c'est très important de comprendre ce mécanisme parce que le marché financier crée sa propre demande. Voilà, sur un exemple, on le voit bien. Et autre illustration de la façon dont ça se passait à l'époque, il faut savoir que par exemple les grandes banques s'assuraient, ça a beaucoup évolué depuis, contre le défaut des États. Voilà, donc ils achetaient, il y avait une question tout à l'heure sur l'émission d'obligations d'État, je suis une banque française, j'achète une obligation de l'État français et j'achète un dérivé de crédit qui va me couvrir si jamais l'État français fait défaut. question, vous croyez vraiment que vous, banque française, vous allez être debout si l'État français devait faire défaut? La réponse, on la connaît. Hein. Si l'État français fait défaut, il n'y a pas une banque du pays qui tient, c'est une évidence. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui m'a vendu une assurance, d'accord? Qui est-ce qui vous a vendu une assurance? Ah, bah, ce sont des fonds spéculatifs, des hedge funds. Ah, et vous pensez que ces fonds, ils vont être debout si l'État français a fait défaut et que vous, banque... Je dis France parce qu'on est en France, hein, mais c'est absolument partout pareil, on fait défaut. Et on voit bien que le système, en l'occurrence sur cet exemple, est absurde, mais ce qui est important, c'est pour comprendre le système, et je pense que l'un des buts de notre session, c'est de comprendre, c'est pas simplement de dire « Ah, c'est tous des idiots ». Non, c'est pas tous des idiots, ils ont un intérêt bien compris à le faire, parce qu'il y a un business qui s'est créé, même si la finalité économique a été perdue.
Juste dans l'exemple que tu viens de prendre là, sur la banque française, est-ce qu'il n'y a pas le fantasme de ne plus être tributaire d'un territoire? En fait, ils s'imaginent, ou ils peuvent imaginer peut-être à raison, que si l'État français fait défaut, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ils peuvent être couverts par un hedge fund dont l'essentiel de l'activité se fait entre la Chine et les États-Unis. Et donc, peu importe que l'État français fasse défaut. Et que, en fait... De la même manière qu'on a créé des places financières françaises pour permettre de doper l'économie régionale, parce que les poches de chacune des régions étaient trop petites au XVIIe, XVIIIe, de la même manière, on a des systèmes financiers globalisés pour dépasser les limites de défauts locaux, fût-ce le défaut d'un État.
Beaucoup de questions dans ce que... Eric. Paradoxe sur lequel on va travailler pendant deux jours là, c'est que de notre session, puisqu'on lit cette question des territoires, du développement territorial et de la finance, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un système qui est global, globalisé. Et donc, in fine, ce que je suis en train de vous décrire, vous pouvez vous dire, mais quel est le lien avec les territoires? Jusqu'ici, pas grand-chose, voire pas du tout. Et c'est très important à avoir en tête parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc après ça, il va falloir faire le lien. Donc l'un des paradoxes, enfin ce sur quoi il faut travailler, et on a plein de présentations qui vont petit à petit y arriver, c'est que ce lien entre ce système financier qui est clairement global, mondial, et un territoire, quel qu'il soit, est très ténu. Après ça, sur l'exemple que je donnais à l'instant, sur la banque de tel pays et le défaut éventuel du pays en question, il y a quand même un lien, pour des tonnes de raisons très techniques, pareil, je veux bien entrer dedans, mais ça risque d'être un peu long, mais il y a quand même un lien dans la question de crédit et de stabilité financière. Mais oui, on a une vraie antinomie, ou en tout cas, le lien territoire-finance est très loin d'être évident. Parce que l'argent est fongible, parce que l'argent il est créé, s'il est de façon bancaire, la façon dont j'expliquais tout à l'heure, si c'est du, entre guillemets, recyclage d'argent existant, autrement dit l'activité d'investissement, il est extrêmement mobile. Il est extrêmement mobile parce que c'est le système qu'on a développé globalement, d'une mobilité... qui n'est pas parfaite, il y a plein de... mais qui est quand même très très grande. Donc la question ne va pas être, pour prendre un exemple bien sûr trop caricatural, de prendre l'épargne de la Charente-Poitou pour investir dans les entreprises de Charente-Poitou, c'est de savoir si les entreprises de Charente-Poitou vont pouvoir bénéficier d'une allocation suffisante de capital pour se développer. Mais dans la façon dont le système financier est aujourd'hui organisé, on va dire l'origine géographique de ce capital reste, en tout cas sur les masses significatives, reste tout à fait, j'allais dire marginal, mais c'est même pas marginal, c'est pas la question. Il n'est pas forcément inintéressant, encore une fois, pour bien comprendre le système, et là je vais me focaliser sur le fameux marché financier, de comprendre sur ces marchés financiers un bloc qui est pour moi l'utilité les marchés financiers. Les marchés financiers ont une utilité. Et puis, un deuxième bloc où ils peuvent être beaucoup moins utiles. Et je vais me permettre de proposer une définition qui est la suivante. Un marché financier, c'est un endroit où il va y avoir une offre et une demande d'instruments financiers pour investir. Et je vous propose, en tout cas c'est le fil que j'ai dans ma tête, fil conducteur que j'ai dans ma tête, une définition de l'investissement. L'investissement étant défini comme un acte où il y a un alignement des intérêts entre le financier et le projet économique. Autrement dit, ils vont gagner ensemble ou perdre ensemble. Ça ne résout pas toutes les questions, mais c'est une ligne de partage qui est assez intéressante. Parce que si on fait un pari, monsieur et moi-même, sur la valeur de ce stylo dans 2 minutes, peut-être que monsieur va gagner, moi je vais perdre, il va gagner 2, je vais perdre 2. Très bien, il sera content, je ne serai pas content, mais le reste d'entre vous, vous en moquez éperdument. C'est votre problème à vous et à moi, monsieur. Ça, ce n'est pas de l'investissement. L'investissement, c'est j'ai mis de l'argent dans le fabricant de stylo, et puis s'il prospère, bah, les créateurs de l'entreprise, ils seront contents, et puis moi, en tant que financier, bah, j'aurai aussi dégagé une rentabilité. Mais on voit qu'il y a une vraie différence. Et cette différence qui peut paraître tout à fait triviale, elle va nous permettre d'aborder plein de questions sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, commençons par le bloc qui, selon cette définition, a une vraie utilité, qui est le bloc en gros, qui permet d'allouer du capital aux actions et aux obligations, donc aux parts de fonds propres et puis aux parts de dettes d'entreprises sur les marchés financiers. Ça, si on s'inscrit, évidemment ça aussi c'est débattable, mais dans une logique d'économie libérale, ça a un sens. Voilà. Après ça, dire que ça a un sens, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de dérive ? Bien sûr qu'il y a des dérives. Mais il faut bien faire une distinction entre ce qui a un sens et ce qui n'en a pas intrinsèquement. Valoriser une action en bourse, je vais faire la distinction entre la façon traditionnelle et la façon dont c'est fait et qui aboutira à l'exemple par lequel Frédéric a commencé la journée tout à l'heure. La façon traditionnelle, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est si je veux avoir une rentabilité de, je fais un calcul simple, de 10% sur mon investissement et que l'entreprise dégage 5 de profit, ben, je suis prêt à payer 50. Parce que si elle fait 5 de profit, ben, 5 c'est 10% de 50. Donc je dis la juste valeur, la capitalisation boursière de mon entreprise, ça devrait être 50 parce que elle fait 5 de profit par an et puis 10% après tout, c'est ce que je veux. Voilà, ça c'est la façon. Alors, il y a une myriade de questions derrière, mais c'est la façon, j'ai envie de dire à la papa, de faire d'évaluer. Amazon. Amazon en bourse, ça vaut, bon, ça varie beaucoup, mais ça vaut 800 milliards de dollars. Amazon, l'année dernière, ça a gagné un peu plus de 3 milliards. Ah, tiens, si je divise 800 par 3, j'arrive à 250, 260. Donc ça se paye 250 fois les résultats, dans mon exemple où, de tout à l'heure, c'était 10 fois. Sur une façon traditionnelle de valoriser une entreprise, un Amazon qui gagne 3 milliards de dollars, alors il y a plein de paramètres, mais ça vaudrait quelque part entre 40 et 90 milliards. Allez, selon ceci, cela, les perspectives de croissance, le niveau des taux d'intérêt, que sais-je. Ça devrait, entre guillemets, valoir entre 40 et 90. Ça vaut 800. L'ordre de grandeur n'est juste pas le même. On n'est pas dans l'approximation. Il y a une petite différence. L'ordre de grandeur n'est pas le même. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir ce qui se passe. Ben, ce qui se passe, c'est que la logique a été inversée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système où on dit « puisque ça gagne tant et que je veux tant de rentabilité, je considère que ça devrait avoir ça », c'est déjà loin d'être une science exacte. On est dans un système qui est totalement inversé. C'est-à-dire que les financiers, et notamment, et c'est là que le lien entre la finance hors marché et la finance de marché va avoir une importance, le financier dit « puisque j'ai apporté 10 à une entreprise et que je veux en avoir 10%, alors elle vaut 100, puisque j'ai 10%
et je veux que ça et je veux j'ai apporté 10 et je veux avoir 10% d'entreprise, donc elle vaut 100. On voit bien que vous dites, mais attendez, là c'est, vous êtes dans le volontarisme, ça veut rien dire ce truc. On est d'accord, mais c'est la façon dont toute cette économie, dite nouvelle économie, se valorise par le jeu financier, et c'est un processus qui a la logique suivante. C'est un processus de dérive vers une logique de capitalisme financier monopoliste. L'économiste, il appelle monopoliste ce qui va permettre de créer un monopole. Et on voit bien que quand on a une action qui vaut extrêmement cher, la capacité à gagner, c'est un phénomène autoréalisateur, est d'autant plus forte. Pourquoi ? Parce que votre action, ça peut être aussi une monnaie pour tout acquérir. Quand Facebook acquiert Instagram en 2012, Instagram emploie 13 personnes, existe depuis 2 ans. 13 personnes dans un garage depuis 2 ans. Ils payent ça 1 milliard de dollars. Et attends, 1 milliard. Sans avoir regardé la comptabilité d'Instagram en 2012, 13 personnes pendant 2 ans qui développent un ou deux softs certainement très intelligents, ça vaut 1 milliard de dollars. La réponse est non, mais c'est pas le sujet. Pourquoi c'est pas le sujet ? Parce que Facebook, il paye non pas en espèces sonnantes et trébuchantes, il n'aurait jamais payé 1 milliard de dollars en espèces sonnantes et trébuchantes, il paye lui-même avec une action qui vaut beaucoup trop cher, par rapport aux façons traditionnelles, que je qualifiais de façon simpliste il y a 2 minutes, de à la papa, d'accord ? Selon des normes de rentabilité, pour faire simple, d'accord ? Un couple risque-rentabilité. À partir du moment où mon action vaut trop cher, je peux payer avec mon action trop cher quelque chose qui vaut aussi trop cher. Et du même coup, je développe un monopole. D'accord ? Autrement dit, si je paye en monnaie de singe, c'est pas grave si je paye trop cher. Quand Spotify rentre en bourse il y a même pas un an, ils ont été introduits avec une valeur boursière de 26 milliards de dollars, je crois. Les chiffres, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'ils veulent dire. Hein. 26 milliards de dollars, alors qu'ils font 1,5 milliard de pertes, j'ai bien dit de pertes par an. Tiens, normalement, la valeur d'une entreprise, c'est un multiple de ses bénéfices. Tiens, ils font 1,5 milliard de pertes, et on considère que ça peut valoir 26 milliards. Et là, vous dites, j'ai peut-être pas fait un cours d'évaluation d'entreprise, mais il y a un truc que je comprends pas. La réponse, c'est que la logique a changé. La logique a changé sur ces entreprises-là, qui ont une vocation à devenir monopolistes et qui, du même coup, peuvent tout s'acheter. Amazon, aujourd'hui, ils sont présents. Historiquement, c'était la vente de livres en ligne. Aujourd'hui, ils sont juste présents sur tout. Voilà. Et pourquoi ? Parce que quand on vaut aussi cher que ça, on a une puissance qui est considérable et donc toutes les portes s'ouvrent. Donc ce sont des phénomènes autoréalisateurs. Donc on voit bien comment la sphère financière, même, et j'insiste sur ce côté-là, quand elle parle de quelque chose qui, sur le papier, a du sens, tiens, financer une entreprise pour son développement, ça a du sens pour l'entreprise, et puis pour celui qui la finance, s'il prospère, parce que l'entreprise est bien développée, après tout, jusque-là, moi, ça ne me choque pas. Mais on voit qu'il y a des dérives qui sont absolument phénoménales. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a l'autre grand bloc des marchés financiers, qui malheureusement représente une part de plus en plus importante, qui est le développement de produits financiers qui n'ont que peu, voire pas du tout, vocation à financer l'économie réelle, ou à financer des entreprises, ou à financer des personnes, ou à financer des projets humains, qui sont ce qu'ils sont, et certains seront bons, certains seront moins bons, mais ils n'ont même pas vocation à faire ça. Fameux exemple dont on a beaucoup débattu dans la presse, c'est les produits dérivés. Les produits dérivés, on ne peut pas ne pas en dire quelques mots. Produits dérivés, c'est quoi ? Déjà, redonnons une définition très simple. Je reprends mon stylo fétiche du matin, ça, c'est pas un produit dérivé, c'est un stylo. Et Le produit dérivé sur le stylo, c'est le droit d'acheter le stylo à un certain prix pendant un certain temps ou le droit de vendre le stylo à un certain prix pendant un certain temps. Donc si je crée tout de suite le droit de vendre ce stylo, monsieur, vous venez de me l'acheter, je vous annonce, ce stylo à 3 euros pendant un an, eh bien voilà, ce droit, c'est un produit dérivé. J'ai le droit pendant un an de vous vendre ce stylo à 3 euros. Et vous vous dites, ok, j'achète ce droit. D'accord. Ce marché des produits dérivés, faut écouter les mots, dérivés de quoi? Dérivés, tiens, des actions, des obligations, des taux de change, donc des actifs financiers fondamentaux. Ça représente aujourd'hui, en engagement financier sous-jacent, 700 000 milliards de dollars. Mais bien entendu, 700 000 milliards de dollars. Alors, je fais quelque chose d'horrible, je compare un flux et un stock, mais pour mémoire, c'est à peu près 10 fois le PIB mondial. Donc, les engagements financiers, non pas sur les instruments financiers eux-mêmes, mais sur le droit d'acheter ou de vendre des instruments financiers, représentent 700 000 milliards de dollars, 10 fois le PIB mondial. Ou tiens, si on compare, puisque c'est dérivé de quelque chose, la capitalisation mondiale des actions, c'est, alors ça bouge tout le temps, mais c'est l'ordre de grandeur qui compte, c'est environ 80 000 milliards, tiens, 80, 700. Et la capitalisation mondiale des obligations, donc des types de créances qui s'échangent sur les marchés financiers, c'est environ 100 000. Donc 100 000 pour les obligations, 80 000 milliards, c'est une somme considérable, hein, évidemment, sur les actions, produits dérivés, donc le droit d'acheter ou de vendre ces choses-là, c'est 700. Entre 80 et 100, beaucoup plus gros. Donc là, on est dans quelque chose qui est... On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très intéressant, je commençais par plaider pour les produits dérivés. Les produits dérivés ont une utilité. Pierre Vels, qui n'a pas pu rester à la session, me faisait remarquer qu'ils ont une utilité. Il a totalement raison, Pierre. Un produit dérivé, c'est utile pour une entreprise exportatrice française qui va vendre ses produits aux États-Unis, qui a peur que, enfin qui peut avoir peur, qui a un risque si le cours de change entre l'euro et le dollar varie contre elle, bien elle va couvrir son risque de change par un produit dérivé qui lui paiera la différence si elle a fait son prix en euros, mais elle est payée en dollars, bah, si l'évolution des cours de change va contre elle, le produit dérivé lui paiera la différence, donc elle est, c'est utile. C'est utile pour une entreprise qui s'endette sur les marchés, et qui a taux flottant, il y a plusieurs formes d'endettement, on dit le taux est révisé régulièrement, et puis elle a peur que les taux d'intérêt augmentent, donc le coût de sa dette monte, elle va se couvrir contre cette évolution. Ça, c'est très utile. Et il est utile quand un spéculateur, la spéculation peut avoir son utilité, en face d'un agriculteur qui veut vendre à terme sa récolte de blé, parce que à tel prix de blé, ça l'arrange, mais si c'est 20% plus bas, il a un problème. Le spéculateur qui achète la récolte à terme à échéance de 3 mois ou 6 mois, bah, quelque part, il a rempli un rôle d'utilité par rapport à cet agriculteur qui voulait couvrir son risque. Donc les produits dérivés, encore une fois, pas acheter blé avec l'eau du bain, ils ont leur utilité. La seule chose, c'est que les statistiques montrent qu'il y a 7% des produits dérivés qui sont conclus entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière. Si on prend comme approximation le fait qu'il y ait une contrepartie non financière dans l'histoire nous induit le fait que, enfin, nous indique que bah, le monde non financier, il y a une utilité, mon agriculteur, ma PME exportatrice ou ma grande entreprise qui a un risque de taux, le monde non financier, ce 7% correspond probablement, en approximation, mais c'est les ordres de grandeur qui sont intéressants, à quelque chose d'utile. Ah, tiens, 7%. Et les 93% restants, ben, les 93% restants, on voit bien que le produit dérivé qui permet de payer une différence de prix quand un prix évolue fondamentalement, eh ben, il permet aussi de faire des jeux financiers spéculatifs ou parfois même encore plus compliqué, stricto sensu que spéculatif, même si on pourrait appeler ça des spéculations. Et donc, on est dans un rapport de 7 à 93. Et là, on voit bien que on a une question, point de suspension. Parce qu'on est, en train de faire de la finance qui parle à la finance pour la finance. Alors, dans l'absolu, on pourrait se dire, bon, après tout, si c'est fait honnêtement, que ça fait du profit et que tous ces gens payent des impôts, j'ai mis beaucoup de si dans ce que j'ai dit, mais admettons, ça fait pas de mal. Ah bah peut-être que si, parce que ça crée de l'instabilité financière, et quand le système, quand le système s'écroule comme il s'est écroulé il y a 10 ans, c'est tout simplement parce que tous les acteurs par ces produits sont tellement connectés les uns aux autres, il y a des connexions dans tous les sens, que quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et donc ça, c'est on a développé par le biais de ces produits quelque chose qui est extrêmement pervers et extrêmement fragile, qui est le fait que mon problème devient votre problème parce qu'on a passé notre temps à échanger des produits. Quand la fameuse banque d'affaires américaine Lehman Brothers fait faillite en septembre 2008, c'est une banque de taille moyenne, hein, moyenne à limite petite par rapport aux géants financiers. Tiens, c'est contre eux qu'est la crise financière, et pourtant c'était très très loin d'être les plus gros. C'était significatif, mais ils n'étaient pas les plus gros. Ils avaient un bilan que de 600 milliards de dollars. On a beaucoup d'acteurs financiers qui ont des bilans beaucoup plus importants que ça. Ils avaient plus de 2 millions de contrats de dérivés en position. Concrètement, ça veut dire qu'il y avait 2 millions de transactions avec un contrat disant « je te dois si tel événement se produit, tu me dois ça si tel événement se produit », qui était partout dans la nature. En gros, ils avaient des engagements avec tous les acteurs financiers du monde. Donc on voit bien le petit jeu de château de cartes, de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », on appelle ça comme tu veux, mais où tout le monde tient tout le monde. Donc quand bien même, et c'est un « quand bien même », on serait dans un système parfaitement transparent, intègre, et payant ses impôts, chacun de ces sujets pourrait nous faire tenir une journée. Quand bien même il y aurait ça, on a un problème d'interconnexion par le développement de ces produits qui créent une instabilité. Parce qu'il ne faut pas rêver d'un système financier où il n'y aurait ni crise ni faillite. L'histoire du monde montre qu'il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des faillites. Par contre, on peut rêver, entre guillemets, ou lire sans guillemets, d'un système où, quand il y a une crise, ça ne devient pas un problème pour toute la société. On peut rêver d'un système où, quand une banque fait faillite, il y a toujours eu des banques qui font faillite, et il y en aura toujours. Mais toute la société ne s'arrête pas. Donc la vraie question en matière de stabilité financière et d'organisation du système, c'est que, quand il y a un problème local, bah c'est un problème local qui a des conséquences locales pour les acteurs locaux, mais toute la société ne s'arrête pas. Et ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'était vraiment le côté, il y a eu un certain nombre de problèmes qui se sont diffusés partout sur la planète du jour au lendemain, et tout le système s'est arrêté avec toutes les conséquences qu'on sait pour les budgets publics, 50 millions de chômeurs dans le monde créés par la crise financière. Alors, les acteurs... On l'a vu, il y a deux sources de l'argent, donc il y a deux grandes familles d'acteurs, fondamentalement. Il y a les banques, celles qui prêtent de l'argent, etc. Et puis, il y a les gens qui gèrent des actifs, d'accord, les gestionnaires d'actifs. Alors, il y a ceux qui sont propriétaires des actifs, typiquement les fonds de pension en France, c'est marginal, il y en a, mais c'est marginal. Les compagnies d'assurance, les fonds souverains. Et puis il y a des sociétés qu'on appelle en France des sociétés de gestion de portefeuille. Il y en a à peu près 600 en France. En anglais, on parle d'asset manager, on voit bien, alors que les investisseurs institutionnels, c'est les asset owners. Il y a ceux qui possèdent les actifs, et il y a ceux qui les gèrent. C'est pas le même métier. Voilà. Et puis, il y a la sphère de tous les gens qui vont intervenir sur les marchés financiers en pure spéculation. Il y a des fonds qui sont purement spéculatifs, qui sont souvent sous un régime juridique de gestionnaire de fonds, d'accord, mais qui vont agir qu'en spéculation. Parce que derrière, donc c'est tout ce qu'on appelle souvent les hedge funds, sachant que les hedge funds sont des gens qui agissent sur les marchés financiers, pas simplement avec l'argent que leurs investisseurs, que leurs clients leur ont confié, mais également en empruntant de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir avec un effet de levier pour gagner deux fois plus, ou deux fois plus, ou dix fois plus. Si ça gagne, mais on voit bien que ça crée aussi de l'instabilité, parce que ce qui vaut au gain vaut également à la peine. Donc les deux grandes masses, c'est les banques et les propriétaires, les asset owners, ceux qui sont les investisseurs institutionnels, et les asset managers, les sociétés de gestion de portefeuille. Ça, c'est vraiment les deux grandes masses. Et puis entre les deux, il y a tous ceux qui interviennent pour exécuter les transactions. Ce sont tout ce qu'on appelle les brokers, les intermédiaires financiers. Fut un temps en France, on appelait ça des sociétés de bourse, le mot a disparu, mais c'est les gens qui vont chercher les ordres de leurs clients pour les exécuter en bourse. La difficulté, on le voit bien, c'est que les banques, et j'en ai parlé avec l'un ou l'autre au moment de la pause, la plupart des banques, et notamment ce qu'on appelle les banques universelles, ont mélangé deux activités très différentes. Il y a l'activité de crédit et l'activité de marché financier. En théorie, une banque, c'est quoi ? On va dans la rue, on demande à n'importe qui, c'est qui cet idiot ? Il ne sait pas ce que c'est qu'une banque, c'est quelqu'un qui prend des dépôts, qui prête de l'argent. La réalité, vous regardez le bilan des banques européennes, il y a à peu près 12%, selon les estimations entre 12 et 15% grand maximum, sur le bilan d'une banque européenne qui consiste à prêter de l'argent à des entreprises ou des acteurs non financiers, à des entreprises non financières. Donc le prêt d'argent aux entreprises, c'est 12 à 15% du bilan d'une banque. Alors plus la banque est petite, plus ça sera une forte proportion, et plus la banque est grande, plus la proportion sera faible. Donc vous dites, ah, et c'est quoi tout le reste ? Alors tout le reste, c'est, alors il y a le prêt aux particuliers, notamment les prêts immobiliers, il y a les prêts à la consommation, et puis il y a tous les marchés financiers. D'accord ? Donc la difficulté, et c'est là que le paysage n'est pas simple à comprendre, c'est que derrière l'activité de banque, on a mis des activités qui sont intrinsèquement bancaires, prêter de l'argent, les prêts, les dépôts, tout ce qu'on a pu se dire ce matin, et puis l'activité qui est purement financière, au sens de marché financier, et qui est souvent sous le même toit. Et une fois qu'on a dit l'activité marché financier, il y a l'activité d'intermédiation. Je prends des ordres, j'ai un gestionnaire d'actifs qui veut acheter 10 000 actions Peugeot parce qu'il a décidé d'investir dans Peugeot, donc il faut exécuter la transaction. Très bien, ça c'est une activité d'intermédiaire. Puis il y a le côté, ah bah tiens, et si moi je prenais une petite position sur Peugeot également au passage. Et puis il y a ceux qui font le prix de marché, qui décident dont le métier consiste à coter un prix sur le marché pour que à tout moment l'investisseur puisse acheter ou vendre du Peugeot. Je reste sur un exemple très concret, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'un trader, alors dans le jargon on appelle ça un teneur de marché, le mot parle bien, il tient le marché, market maker en anglais, c'est l'exacte traduction du mot teneur de marché. C'est la personne, la fonction, qui va transformer le financier en monétaire, parce qu'évidemment, il y a des échanges d'argent, donc on voit bien. Donc, les banques, les gestionnaires d'actifs, entre les deux, les intermédiaires. On a évoqué à l'instant les chambres de compensation. Une chambre de compensation, c'est un endroit qui va garantir la bonne fin des opérations. Parce que, évidemment, quand j'achète quelque chose, j'ai envie qu'on me le livre, et celui qui l'a vendu, il a envie qu'on le paye. Donc il y a un endroit qui va garantir, il n'y a pas que la chaîne de compensation, il y a toute une chaîne de traitement après les transactions qui va permettre le règlement, la livraison et tout ce qu'on appelle les appels de marge pour garantir la bonne fin des opérations. Donc un système financier, c'est tout ça en termes d'acteurs.